Décryptualité semaine 2 de l'année 2022. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, qu'a-t-on au sommaire ?
Petite revue de presse, mais assez dense, avec pas mal d'articles secondaires parce qu'il y a deux sujets qui reviennent.
Heure active, l'utilisation de Google Analytics viole le droit européen selon l'autorité autrichienne de protection des données, un article de la rédaction.
Alors, si ça a vraiment des conséquences sur Google et Google Analytics, ça va être intéressant parce que le business model de Google dépend largement de l'analyse du trafic web, donc c'est ce que fait Google Analytics. Donc si jamais ils doivent changer de façon de travailler, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller pour récupérer toutes les informations qu'ils ont sur tout le monde.
Voilà, et en tout cas, ça souligne le fait que les GAFAM qui ont pignon sur rue et avec qui l'État aime bien contractualiser sont hors la loi, et ce n'est pas la première fois. En tout cas, c'est ce que considère l'équivalent de la CNIL en Autriche. ZDNet France, des projets open source à partager pour les services publics européens, un article de Thierry Noisette.
Alors c'est tout un truc sur la DINUM, il y a des mises en avant sur les marchés publics, il y a aussi toute une discussion sur le fait de récupérer des logiciels libres et de choisir parmi tous les logiciels libres qui sont proposés par différents pays, on va dire, et développés par différentes administrations et voir si on peut pas les adapter pour les administrations françaises. Plutôt sympa. Il y a d'autres articles en secondaire, allez jeter un œil, c'est pas mal.
Le monde informatique, le gouvernement met le Health Data Hub en pause, un article de Jacques Cheminat.
Alors là aussi, gros sujet, il y a pas mal d'articles secondaires. Donc le Health Data Hub, c'est en gros, on stocke les données de la sécurité sociale aux États-Unis sur le cloud, le nuage de Microsoft, et on a confiance.
Alors un petit peu moins, puisque ça a été mis en pause, on en a parlé la semaine dernière, et je crois la semaine d'avant même. Enfin la semaine d'avant, c'était les vacances, mais... C'est un sujet qu'on a sous le coude depuis un petit moment. Et ma dernier article qui va faire notre sujet de la semaine. Le monde informatique, open source, les développeurs se rebiffent, la Maison Blanche consulte. Un article de Jacques Cheminat également.
Alors, se rebiffe, c'est un terme que je trouve assez gentil, parce qu'il y a plein de manières de qualifier ce qui se passe et ce qui s'est passé. Exactement, il y a un développeur qui a vraiment jeté un pavé dans la mare. Il a saboté, c'est ce qu'on peut utiliser comme terme, même si c'est compliqué. Deux de ces projets. De ces deux projets dépendent quelques 20 000 autres projets. Et oui. Donc, on est dans une sorte de pyramide de dépendance. Et donc, en retirant sa petite pierre de l'édifice, il y a 20 000 projets qui ont galéré.
C'est ce qu'on appelle, avec un anglicisme, une librairie. C'est-à-dire que c'est des logiciels qui sont voilà, des briques techniques. Hein. Le grand public ne les connaît pas. Mais ils peuvent être massivement utilisés. Donc, ils s'appellent Colors.js et Faker.js. Et du coup, tu as une idée de à quoi ça sert ?
Il y en a une, c'est pour coloriser. Aha, c'est son nom. Et oui. Faker, c'est pour faire de fausses données de test. Je crois que c'est Colors dont dépendent 19 000 projets ou quelques 19 000 projets. Et donc, en les retirant sur GitHub, en les sabotant exactement, parce que il y en a un des deux qui écrivait liberté, 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 puis un drapeau américain, je crois, quelque chose comme ça. En sabotant ces projets, tous les projets qui en dépendaient, mais qui n'avaient pas indiqué la version précise dont ils dépendaient, d'habitude on fait ça, on va bloquer et on va dire je dépends de telle librairie à telle version, eh bien lui il avait publié une version mineure de ces deux librairies, et donc les gens qui n'avaient pas bloqué leur version de dépendance, bah, ils se sont retrouvés avec leur propre projet qui ne fonctionnait plus. Et qui écrivait « Liberté, liberté, liberté » en permanence. Ils ont cassé leur truc.
Il faisait également la promotion de sa propre théorie du complot en lien avec des agneaux de compagnie. Voilà, je ne vais pas aller voir le détail.
Il y avait des trucs sur Aaron Schwartz aussi, mais je crois que c'était plutôt sur GitHub que c'était mis en avant. Donc des trucs un peu étranges, effectivement. Mais en tout cas, il y a eu le gardien du logiciel libre qui est intervenu. Tu sais de
voilà.
Qui je parle.
Bien, c'est Microsoft. Tu me forces à dire ça, t'es vraiment un enfoiré.
C'est vache. Parce que effectivement, la plateforme qui héberge ces briques, c'est GitHub. Et comme on en a parlé beaucoup, à coups de milliards, GitHub a été racheté par Microsoft, qu'il contrôle maintenant. Et donc très rapidement, ils sont intervenus, bah, ils ont bloqué le compte du gars et ils ont remis les librairies dans leur version juste antérieure pour faire en sorte que ça continue à fonctionner. Ça reste compliqué d'un point de vue du droit d'auteur.
Est-ce que c'est vraiment défendre le logiciel libre que de faire ça ?
Alors, les deux, mon commandant, c'est-à-dire que, un, il a saboté son logiciel parce que bah, c'est un logiciel libre, il a le droit de faire ce qu'il veut avec, il n'y a pas de garantie. C'est-à-dire, quand on fait du logiciel libre, dans les licences, il est bien marqué « attention, nous n'assurons de rien ». Et Microsoft, en retirant les librairies, en faisant un retour en arrière, effectivement...
Ils ne respectent pas le droit d'auteur.
Oui, mais probablement que dans les conditions d'utilisation de GitHub, il faudrait jeter un œil dans ces longs documents hyper illisibles. Mais il y a probablement des clauses qui indiquent « attention, si ce que vous faites nuit à va savoir quoi ». Dans ce cas-là, ils ont le droit de te retirer l'accès. Oui. Donc en tout cas, ils ne sont pas gênés, ils l'ont fait. On sait qu'ils ont plein d'avocats derrière eux, donc on n'a pas trop peur. Et puis, ils ont réinstitué son compte au bout de quelques jours quand même.
Voilà. Et ça démontre deux choses qu'on répète souvent. C'est d'une part que quand on est dépendant d'un service hébergé tel que les GitHub, eh ben, code is law, ce que GitHub fait, s'impose à soi. Et si cet individu voulait conserver ce logiciel saboté et que c'est ça qu'il voulait faire, de fait, sa liberté est limitée par la volonté de son hébergeur. En hébergeant chez GitHub, il s'est de facto mis sous la coupe de Microsoft. L'autre point, c'est que le droit d'auteur, il est secondaire. Les principes sont secondaires pour une boîte comme Microsoft qui fait de l'open source et qui veut des logiciels qui tournent. Et ce que ce type a fait, ça convient pas. Et Microsoft s'assoit un peu sur les principes. On aurait pu dire, en tant qu'auteur, tu décides de saborder ton projet, c'est ton droit. Dans ce cas-là, je supprime tout, puisque tu n'es plus dans les conditions d'utilisation. Mais non, ils ont remis la version antérieure. Donc ils ont dit, on doit un service à tous les utilisateurs qui sont derrière. Et la volonté de l'auteur de saborder son propre projet, ce qui est sa liberté, elle passe au second plan.
Alors, petit détail, moi, en tant que développeur, je fais un peu la tête, parce qu'il a publié une nouvelle version de ses librairies, sa beauté, donc, mais en changeant juste de manière mineure les numéros, ce qui indique généralement que ce n'est pas un gros changement. Donc, il a un petit peu trahi ce contrat-là, on va dire. Moi, je suis un peu devenu blanc quand j'ai vu ce genre de choses et de situations.
Alors, il y a eu des antécédents de librairies sur lesquelles il y a eu des problèmes. Il y en a une qui est assez connue, qui était un peu la première qui avait fait scandale, qui était liée au Nouvel An.
Tu te réfères non pas à un sabotage, mais à une petite erreur.
Oui, non, mais je parle de problèmes en général. Je pense que c'est le premier cas de sabotage aussi spectaculaire dont j'entends parler. Mais des problèmes sur des librairies logiciels libres, la première qui avait fait beaucoup de bruit, c'était la faille qu'on avait nommée Heartbleed, qui n'est pas le nom du logiciel, qui est donc ce même type de petit projet porté par des individus dans leur coin qui sont pas vraiment payés pour ça. C'était le profil aussi de ce développeur-là. Et où quelqu'un avait fait une mise à jour juste avant le nouvel an. Il avait commité, il voulait faire le dernier commit de l'année. Et dedans, il a introduit une faille de sécurité considérable sur un logiciel qui est un logiciel de sécurité. Donc c'était vraiment le gros problème. Et à l'époque, ça avait vraiment fait peur. Et de fait, les GAFAM avaient mis de l'argent sur la table en disant « Peut-être que pour ce logiciel-là, il faut quand même qu'on mette un peu d'argent pour s'assurer que les choses soient faites plus professionnellement. » Mais ça démontrait que ces problèmes-là étaient déjà en place. L'année dernière, on a parlé régulièrement de toute une série de demandes d'éditeurs de solutions libres pour être mieux rémunérés.
Alors, dans les trucs plus récents, il y a eu Log4j, qui était dans le même cas que Heartbleed. Donc, une librairie utilisée par plein de gens, mais en douce, sans qu'on le sache vraiment, et qui a pété, il y avait un problème de sécurité. Et puis, il y a un autre développeur qui s'est révélé là récemment et qui se plaint d'effectivement de ne pas être rémunéré pour son travail. Et dans les deux cas, comme le cas du premier développeur dont on parle, il se plaint que les grosses boîtes, les GAFAM notamment, utilisent ces logiciels sans le rémunérer, un peu comme l'ont fait MongoDB ou Elastic à leur époque. Et effectivement, ils sont plaints que Amazon notamment utilisait leur logiciel comme brique de leur système et que c'était pas mis en avant. Surtout, c'est que c'était pas rémunérés, donc ils n'étaient pas contents. Dans tous les cas, ils ont changé leur licence, ils ne développent plus du logiciel libre, mais Amazon, il a sa force de frappe, donc qu'est-ce qu'il a fait ?
Il a forqué. Donc il a utilisé ses moyens, et il a pris la dernière version qui était sous licence libre, et il a dit, nous on continue sous licence libre avec cette version-là. Donc ce qui est vraiment rageant, parce que l'éditeur faisait ça sous licence libre, ils leur ont pas donné un sou, et au moment où les autres ont dit, nous on arrête, et qu'ils ont claqué la porte, ils ont dit, maintenant on va mettre des sous, mais on va pas t'en donner, on va le faire dans notre coin. Donc effectivement, c'est très très rageant, on en avait parlé, alors on avait fait d'ailleurs un podcast là-dessus et en se posant la question de dire est-ce qu'il n'y a pas une faille dans le modèle du libre en général avec cette question de l'économie. Souvent on fait le parallèle avec les biens communs, le bouquin d'Elinor Ostrom, même si le code n'est pas un bien rare, mais dans le bouquin d'Elinor Ostrom, il y a un point qui est intéressant où elle dit que dans tous les modèles de partage de commun qu'elle a pu observer, elle disait que s'il y avait un acteur beaucoup plus gros que les autres, ça ne marchait pas. Et que, en gros, ça déséquilibrait les ententes et ce genre de choses. Et on est typiquement dans ce genre de domaine dans l'informatique où on a quelques très gros acteurs. Et on peut tout à fait voir un certain nombre de GAFAM d'aujourd'hui qui offrent des services hébergés, soit pour les professionnels comme Azure pour Microsoft ou AWS qui s'appuient massivement sur de logiciels libres. Alors, il y a des couches propriétaires aussi. Mais en gros, le cœur du truc, c'est du logiciel libre qu'ils ont pu prendre sans avoir besoin de mettre des milliards sur la table pour tout développer, puis des années de développement. Et ils donnent accès à des tas d'autres sociétés, etc., qui n'ont pas de compétences dans le libre et qui achètent ces produits tout packagés. Et donc, d'une certaine façon, l'argent et le développement et le business a été accaparé par ces sociétés. Donc, on pourrait avoir cette vision en disant que par l'économie, par l'argent, par la concentration du capital, le libre s'est fait bouffer la laine sur le dos.
Moi, j'ai tendance à qualifier ces acteurs-là de parasites. Effectivement, ils utilisent le système, mais Un parasite, c'est souvent quelque chose qui est petit par rapport à un autre. Alors là, ça va être compliqué de les qualifier de petits. Oui. Encore qu'on pourrait les qualifier de petits par rapport à Internet et à la communauté en général de l'informatique. Peut-être que dans ce contexte-là, les GAFAM sont comparables, je ne sais pas.
Je ne suis pas trop sûr. Hein, quand Facebook, quand son DNS est tombé et qu'il y a plein de sites qui s'appuyaient sur les services d'identification par Facebook, ça fait un mal terrible. Je pense que si aujourd'hui AWS se casse la gueule, ça va avoir des répercussions énormes. AWS étant un service de location de serveurs mis en place par Amazon, hein, qui est très couramment utilisé, oui.
Alors, on pourrait clamer, et ça, je ne sais pas si tu as bien suivi, mais il y a quelque chose qui va solutionner tout le problème, qui a été mis en avant, je crois. Est-ce que Elon Musk en a parlé ? Je ne sais plus. Mais, ah ah, tu me regardes bizarrement, mais c'est le Web 3.0.
Ah, oui,
oui, monsieur, parce qu'on avait le Web 2.0. On a sûrement eu le Web 1.0, pour le coup. Oui. Mais donc là, on a le Web 3.0 qui revendique notamment la décentralisation et le fait de rapprocher d'utilisateurs la brique informatique et les données informatiques liées. Et c'est ce que font les chatons depuis des années, de décentraliser le web. Donc le web 3.0, c'est du buzzword, hein, on pourra le comprendre,
comme le web
du marketing.
2, d'ailleurs, oui.
Comme le web 2.0, hein, qui était le web interactif, on va dire, où on pouvait commenter sur des forums, notamment. Donc là, le web 3.0, peut-être que c'est un moyen de casser les genoux des GAFAM, conceptuellement. Mais on n'y est pas rendu. En attendant, moi, je remarque les développeurs qui ne veulent pas que leur brique soit utilisée à tout va. Eh bien, il faut qu'ils fassent attention à la licence qu'ils utilisent, parce que c'est pas une garantie, hein, bien sûr, mais il y a une petite arme qui différencie souvent l'open source et le logiciel libre, un petit mécanisme, ça ne différencie pas à 100%, mais quand même, c'est le copyleft, hein, la gauche d'auteur.
Oui. Oui, oui, alors un logiciel non copyleft reste totalement libre, mais le copyleft impose à quelqu'un qui va reprendre le logiciel, le rediffuser, de garder la même licence. Alors que les licences non copyleft n'ont pas du tout cette contrainte. Dans le cas là qui a fait grand bruit sur ces deux librairies dont on parlait au début, c'était une licence MIT, donc licence non copyleft, qui permettait aux gens de faire ce qu'ils voulaient derrière. Et dans le monde de l'entreprise et des grosses entreprises, ils adorent prendre des licences non copyleft parce qu'ils ont vraiment peur des conséquences, quand souvent, en plus ça, ils utilisent ces librairies pour faire des trucs non libres derrière. Et donc, avec une licence non copyleft, ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent derrière et ils s'embêtent pas. Dès lors qu'il y a du copyleft, ils disent « oulala, ça risque de nous emmener quelque part », etc.
Alors, il y en a qui disaient que c'était viral, cette notion de transmission du copyleft. Dès que tu l'inclus quelque part, c'est viral, ça a un côté un peu négatif. Alors qu'en fait, non, on en hérite. Ça solutionne pas tout, hein, ou en tout cas, on n'a pas bien compris tous les tenants et les aboutissants. MongoDB était déjà sous une licence copyleft quand ils ont été utilisés par Amazon. Et ils n'étaient pas contents, ils se sont plaints, et ils ont modifié la licence, ils ont rajouté une clause qui fait qu'elle n'est plus vraiment libre, ou en tout cas, elle n'est plus considérée libre par les institutions du libre, on va dire, qui fait que Amazon, ils se sont retrouvés à forquer, effectivement, et pour le coup, Amazon continue, lui, à faire du logiciel libre et du logiciel libre copylefté. Donc, ce n'est pas une solution à 100%, notamment quand il y a un gros acteur. Hein.
C'est en ça que je disais que le poids financier de la surface de communication et de contrôle des infrastructures peut jouer énormément, et c'est peut-être une faille, j'ai pas d'opinion tranchée là-dessus, mais peut-être une limitation dans le modèle du libre tel qu'on le connaît. Donc, c'est des sujets qui traînent depuis longtemps, on a parlé régulièrement depuis 2 ans, je pense, hein, de tous ces éditeurs ou tous ces développeurs individuels qui sont dans un coin et qui travaillent sur des trucs très techniques, et où il y a plein de sociétés qui font beaucoup d'argent avec et où ils n'en voient jamais la couleur. Donc, sans demander à devenir millionnaire, ils veulent juste être payés raisonnablement, honnêtement pour leur boulot. Et aujourd'hui, effectivement, ça ne marche pas. En économie, c'est ce qu'on appelle, en anglais, le free rider, donc le voyageur gratos, qui prend le train sans payer. Et au final, la plupart des gens font ça.
L'article propose même une solution que j'aime bien, mais qui n'est pas très applicable. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles de la fin de l'article, mais il parle d'un revenu de base pour les développeurs.
Oui, oui, ce serait passé par une régulation finalement publique de ces biens communs. Effectivement, si on considère que dès lors qu'il y a des grosses sociétés, elles ont trop de poids et qu'on n'aura jamais d'équilibrage et de système communautaire comme les régulations de commun étudiées par Aline Rostrom, alors effectivement, l'intervention de la force publique peut être intéressante et ça permettrait de reconnaître qu'on a un commun qui appartient à tout le monde et que ça permet effectivement à l'ensemble de l'économie de marcher mieux, d'être plus efficace. Mais après, ça peut remettre en cause les licences et les principes. C'est aussi une des pistes qui est abordée dans l'article, hein, qui est de dire « on peut peut-être changer les licences ». Et ça, c'est un petit peu problématique.
Bon, on a déjà beaucoup discuté sur le sujet, mais je pense qu'on en reparlera.
Très bien.
Je te dis à la semaine prochaine.
Réécoute bien le podcast une fois que j'aurai publié, parce que je vais peut-être le saboter au montage.
Amazon, une solution que j'aime bien.
Salaud !